pas de se diriger avec aisance dans Jamaïca, le quartier du Queens, où une large avenue rappelait à l'ex-lecteur de la décharge, le périphérico de Oaxaca. Artère séparée en deux par les voies ferrées. C'était là qu'El Jefe emmenait les enfants au ravitaillement. On trouvait tous les fruits et légumes les moins chers, presque pourris, sur ce marché de la Central. Sauf en 68, où, occupé par l'armée pendant les émeutes étudiantes, il avait dû s'installer sur le Zócalo, au centre-ville. Juan Diego et Lupe avaient alors respectivement 12 et 11 ans et découvraient le quartier autour du Zócalo, quand ils venaient faire leur commission. Les émeutes avaient été de courte durée. Le marché allait retrouver sa place sur la centrale et le périphérico, avec la passerelle mélancolique qui enjambait les rails. Mais le Zócalo était resté dans leur cœur. C'était leur quartier préféré. Ils y passaient tout le temps qu'ils pouvaient, pour fuir la décharge. Pourquoi un gamin et une gamine de Guerrero ne s'intéresseraient-ils pas au cœur battant des choses? Pourquoi ne seraient-ils pas curieux de voir les touristes? La décharge ne figurait pas sur les cartes que ceux-ci consultaient. En avait-on jamais vu un seul sur le Basurero? Le moindre relent d'ordure, le moindre picotement des yeux sous l'effet des foyers brûlants en permanence donnait envie de repartir au Zócalo. Il suffisait de regarder les chiens de la décharge ou de subir leur regard pour vouloir retourner en ville. Comment s'étonner que lorsque l'armée avait investi les lieux et que les enfants de la décharge s'étaient mis à traîner sur le Zócalo, Lupe ait contracté l'obsession maniaque autant qu'ambivalente des Saintes Vierges de Oaxaca. Le fait que son frère soit le seul à comprendre son babil la coupait de tout échange digne de ce nom avec les adultes. À cette époque, Juan Diego n'avait que 12 ans. Et les vierges étaient des vierges sacrées, des faiseuses de miracles qui suscitaient la ferveur de bien d'autres âmes que celle d'une gamine de 11 ans. Ne fallait-il pas s'attendre à ce que Lupe soit d'emblée attirée par ces vierges, elle qui lisait dans les pensées, et ne connaissait aucun alter ego dans la vraie vie? Mais d'un autre côté, n'était-il pas naturel que des gamins de la décharge demeurent sceptiques devant les miracles? Ces vierges concurrentes, quel bien faisait-elle ici et maintenant? Quel miracle avait-elle accompli ces derniers temps? N'était-il pas logique que Lupe voie d'un œil archi-critique leur mérite tant vanté et si peu manifesté? Il y avait une boutique de Sainte Vierge à Oaxaca. Les enfants la découvrirent lors d'une de leurs premières sorties dans le secteur du Zócalo. On était au Mexique, le pays qui avait été envahi par les conquistadors. Autant dire que l'Église catholique faisait commerce des Saintes Vierges de longue date. Oaxaca avait jadis joué un rôle central dans les civilisations mixtèques et zapotèques. Les madones des conquistadores étaient vendues à la population indigène depuis des siècles. Ça avait commencé avec les Augustins, suivis des Dominicains, après lesquels étaient venus les Jésuites, tous cherchant à fourguer la Vierge de leur chapelle. À présent, leur fonds de commerce marial était en train de se diversifier. Lupe l'avait remarqué dans les nombreuses églises de Oaxaca. Mais jamais de manière aussi frappante que dans le magasin de piété situé sur la Calle Independencia, où la rivalité des madones s'affichait dans un étalage tapageur de figurines plus grossières les unes que les autres. Certaines étaient grandeur nature, d'autres plus grandes encore. Sainte Marie, Mère de Dieu, y était représentée, bien sûr, mais aussi, pour n'en citer que deux autres, Notre-Dame de Guadalupe et naturellement Nuestra Señora de la Soledad. Cette dernière concentrait le mépris de Lupe qui la traitait de figure locale. Elle s'en moquait copieusement à cause de la légende du bourrin quadrupède au-dessus de tout soupçon à titre personnel. La boutique vendait aussi des Christs en croix de toutes dimensions. Pourvu qu'on en ait la force, on pouvait y faire l'emplette d'un Christ géant, toutes plaies ouvertes, et le rapporter chez soi. Néanmoins, l'activité principale du magasin, ouvert en 1954, était d'approvisionner les fêtes de voisinage, dites las posadas, pendant la période de Noël. À vrai dire, les enfants de la décharge étaient bien les seuls à appeler ce magasin la boutique des Saintes Vierges. Il était connu de tous comme la boutique des posadas, et s'appelait de son vrai nom la Niña de las Posadas. La Niña, en question, pouvait emprunter la forme de toute vierge commercialisée, et il ne faisait pas de doute que sa présence à la fête aurait un effet plus joyeux que celui d'un Christ en croix. Loupé avait beau prendre les vierges au sérieux, la boutique la mettait en joie. Son frère et elle y allaient pour rire un bon coup. Ses madones à vendre étaient à peine moins réalistes que toutes les prostituées de la Calle Saragossa. On aurait dit des poupées gonflables. Quant au Christ saignant, ils étaient tout simplement grands guignolesques. Une hiérarchie, pour reprendre le terme de frère Pépé, s'était glissée parmi toutes les vierges des églises de Huachaca. Et c'était ce qui chagrinait Loupé. En somme, l'église catholique investissait dans l'entreprise, et ça ne la faisait pas rire. Simple exemple, la légende du bourricot, qui était à l'origine de son antipathie pour Notre-Dame de la Solitude. Sa basilique était grandiose, verrue hypertrophiée entre les calles Morelos et Independencia. La première fois que les enfants l'avaient visitée, ils n'avaient pas pu atteindre l'autel, obstrué par un contingent de pèlerins braillards, gens de la campagne, fermiers ou saisonniers, qui, non contents de hurler leurs prières, remontaient à genoux la longueur de la nef jusqu'à la radieuse statue de Notre-Dame de la Solitude dans leur piété ostentatoire. Ils rebutaient Loupé, ainsi que le côté provincial de cette Vierge de la Solitude, considérée comme la sainte patronne de Huachaca. Si frère Pépé avait été là, il aurait sans doute mis les enfants en garde contre leurs propres préjugés hiérarchiques. Il fallait bien que les gosses de la décharge se trouvent supérieurs à quelqu'un. Alors, ils se croyaient supérieurs aux gens de la campagne. Quand ils observaient ces pèlerins habillés comme des épouvantails qui hurlaient leur dévotion en se traînant sur les genoux, le doute ne leur était pas permis. Ils se sentaient très au-dessus de ces rustres. Le vêtement de cette Notre-Dame, longue robe noire évasée, incrustée d'or, n'inspirait aucune vénération à Loupé. On dirait la méchante reine des contes de fées, déclarait-elle. Tu veux dire qu'elle fait riche? Demandait Juan Diego. Elle est pas de chez nous. Elle voulait dire pas d'ici. Elle voulait dire qu'elle faisait espagnole, européenne, blanche, en un mot. Cette vierge de la solitude était une visage pâle, une tête d'épingle avec une robe du soir. Et comble de vexation pour Loupé, elle reléguait au second plan Notre-Dame de Guadalupe, la Virgen Morena, réduite à occuper la chapelle latérale gauche de la basilique et ramenée à un simple portrait même pas éclairé. Elle était pourtant fille du pays, celle-là, indienne, de chez nous, aurait dit la fillette. Frère Pépé aurait été stupéfait de découvrir tous les livres que Juan Diego avait lus sur la décharge, et avec quelle attention Loupé en avait suivi la lecture. Le père Alfonso et le père Octavio croyaient avoir purgé leur bibliothèque de presque tous les ouvrages profanes ou séditieux, mais le jeune lecteur en avait arraché plus d'un aux flammes des bûchers d'ordures. Or, ces œuvres qui retraçaient l'endoctrinement de la population indigène par l'Église catholique n'étaient pas tombées dans l'oreille de sourds. Les jésuites avaient joué un rôle stratégique dans les conquêtes espagnoles, et le frère et la sœur avaient beaucoup appris sur ces guerriers de la foi. Et si Juan Diego avait récupéré les volumes dans l'intention d'apprendre à lire, Loupé en avait d'emblée écouté la lecture avec une concentration avide. Dans la basilique se trouvait une salle dallée de marbre avec des icônes qui racontaient la légende de l'âne. On y voyait prier des paysans, rejoints par un bourricot solitaire et sans maître, portant sur son dos une longue caisse qui évoquait un cercueil.
Fallait quand même être idiot pour pas aller regarder ce qu'il y avait dans cette caisse, commentait Loupé. Eh ben, ils ont pas regardé. Faut croire que leur sombreros leur avait asphyxié les méninges.
La fin du bourricot prêtait et prête encore à controverse. Mais qu'il se soit couché pour mourir de sa belle mort ou qu'il soit tombé raide inopinément, une chose est sûre, la basilique fut édifiée sur les lieux où il avait rendu l'âme. Ce fut seulement alors que les paysans eurent l'idée d'ouvrir la fameuse caisse. Ils y trouvèrent une statue de la Vierge de la Solitude. Détail troublant, une effigie minuscule de Jésus, vêtue d'une simple serviette, était couchée sur les genoux de la dite Vierge.
« Qu'est-ce qu'il fiche là, ce Jésus en miniature ?» s'interrogeait Loupé.
La disproportion des deux statues était inquiétante. Et il ne s'agissait pas d'un enfant Jésus. Ce Jésus-là avait de la barbe au menton, mais il était bizarrement petit. Selon Loupé, l'âne avait été maltraité. Cette affaire de Vierge de la Solitude avec son Jésus nanifié et presque nu sentait l'arnaque.
Quant à ces paysans trop bêtes pour regarder le contenu de la caisse tout de suite, mieux valait n'en rien dire.